Il y a Leïla qui a partagé une image. Leïla voyait le regard du Père du Seigneur sur nous comme une maman qui va réveiller son enfant en lui chantant une chanson. Il y a de la douceur pour toucher le cœur de l'enfant. Et voilà, c'est un peu ce que le Seigneur est en train de faire pour nous. Comme avec la douceur d'une mère qui sait comment prendre ses enfants, qui sait comment les réveiller ou même les aider à s'endormir, qui sait comment apporter la paix. Et apporter aussi ce sentiment de sécurité. Et je crois que ce matin, il y a vraiment un message que notre Dieu est là, que notre Dieu est bon, que notre cœur doit être touché par le Seigneur, que les portes de nos cœurs soient ouvertes au Seigneur, qu'elles soient restaurées pour s'ouvrir totalement au Seigneur, mais que les portes de nos cœurs soient aussi capables de se fermer à tout ce qui ne vient pas de Dieu, tout ce qui est de l'ennemi, tout ce qui est des faux messages. La bonté de Dieu, c'est quelque chose qui m'habite particulièrement ces dernières semaines. La bonté de Dieu, je suis touchée par la bonté de Dieu, je suis émerveillée toujours plus profondément par la bonté de Dieu. Parce qu'il y a un repos en Dieu lorsqu'on a confiance en sa bonté. J'aimerais même dire il y a proximité avec Dieu lorsqu'on a confiance en sa bonté. Nous nous sentons proches de Dieu, nous sommes proches de Dieu lorsqu'on a confiance en sa bonté. Alors une question, qu'est-ce qui dans votre quotidien, si vous êtes d'accord avec moi que Dieu est bon, qu'est-ce qui dans votre quotidien traduit votre confiance dans la bonté de Dieu? Et je ne parle pas seulement de quand ça va bien. C'est tellement facile. Regardez, il y a du soleil ce matin. Les mesures hivernales dans 5 jours, c'est loin. Merci Seigneur. Quelle bonté, le printemps revient. Je vois ta fidélité dans la nature. Si je regarde par la fenêtre, je vois même des jonquilles qui ont transpercé la neige. Je vois la bonté, la beauté de Dieu. Et je le remercie. J'exprime ma reconnaissance.
La prière.
Mais quand tout à coup, ça va mal. Quand je perds mon travail, quand j'ai des difficultés familiales, quand il y a ma santé qui va pas bien. Comment est-ce que dans mon quotidien, dans mon cœur, je traduis ma confiance dans la bonté de Dieu? Alors, il y a plein de choses, mais essayez de réfléchir chez vous, pour vous personnellement, qu'est-ce que vous faites? C'est quoi vos premiers réflexes? La prière, la louange, magnifique, magnifique. Jean-Christophe, il a dit les amis. Je crois qu'il a dit quelque chose d'extrêmement important aussi. Exactement, parce qu'il serait peut-être pas là il y a une semaine, comme il dit. Mais il arrive que quand on vit des difficultés, on n'ait pas ce réflexe d'aller regarder à la bonté de Dieu, même si on en est convaincu de cette bonté. Parfois, et même assez souvent, on essaye de répondre soi-même. On essaye de trouver soi-même les solutions. Puis ça peut être assez subtil. Ça se décline sous des tas de formes différentes. Il peut y avoir l'angoisse. Il m'arrive quelque chose de difficile et qu'est-ce que je fais? Je tombe dans l'angoisse et je commence à nourrir cette angoisse. Je commence à nourrir mes peurs et à commencer à proclamer des choses. Ah, puis s'il va se passer ça, mais alors si m'est arrivé ça, bah c'est qu'il va se passer ça et puis un tel, il va faire ça, il va dire ça, il va m'abandonner. Vous connaissez ces schémas? Ça peut être la justification, la propre justice. Ah, mais c'est pas de ma faute. Ah, mais de toute façon, moi. Ou alors, de toute façon, moi, on m'a toujours dit que c'était comme ça. Depuis tout petit, on m'a dit que c'était comme ça. Donc, de toute façon, c'est normal que ça m'arrive. Ah, puis de toute façon, s'il doit arriver une graille à quelqu'un, ça va être moi. Nos réponses, ça peut être de la colère. Et ça peut même être des transgressions de loi, la transgression d'un cadre. Parfois, quand on a besoin de quelque chose ou qu'on a envie de quelque chose, eh bien, on va transgresser. On peut voler, on peut tricher, on peut mentir. Chaque situation a sa réponse humaine. Et nos réponses humaines, elles sont dérisoires et bien futiles. Et elles ne nous amènent pas le bonheur, elles ne nous amènent pas la plénitude, parce que nous ne sommes pas la source de nos solutions. Donc, nos réponses futiles ne nous rapprochent pas de Dieu. Ça me fait penser à une histoire vraie qui date d'il n'y a pas si longtemps. Un couple au Val-de-Ru. J'ai grandi au Val-de-Ru et il y a plusieurs villages. Il y a des villages plus discrets dont on parle plus que d'autres. Et dans un village discret dont on ne parle jamais, il y a une superbe maison avec un grand terrain. Et le couple qui habitait cette maison était richissime. Ils avaient des voitures de luxe, ils menaient la grande vie. Vraiment, c'était du beau monde. Et d'un jour à l'autre, ce couple a disparu. Le temps a passé, le jardin s'est retrouvé en friche. La maison a été saisie, les voitures de luxe ont été saisies. Beaucoup d'objets d'art, des objets précieux, des objets importants dans la maison ont été saisis. Et au bout d'un certain temps, la maison, en l'état, avec ce qui restait à l'intérieur et le terrain en friche, a été mise aux enchères, autrement dit bradée. Et une amie qui avait besoin d'une maison et de terrain a pu acquérir cette maison à un prix dérisoire. Et à l'intérieur, il y avait une magnifique garde-robe d'habits de luxe. Il y avait des stylos en or, des objets de marque, tout ce que les autorités ont laissé. Et du coup, elle a hérité, entre guillemets, de tout ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ce couple trafiquait avec je ne sais quelle mafia. Et à un moment donné, ils ont été alertés et ils ont dû décamper. D'un jour à l'autre, ils ont dû partir sans rien emporter et ils ont dû quitter la Suisse parce qu'ils ont outrepassé le cadre. Et ce couple ne peut plus revenir en Suisse. Ils ont tout perdu. Peut-être même qu'ils ont perdu leur identité. Parce que s'ils reviennent avec leur identité, ils vont avoir un problème avec l'autorité, avec les autorités. Parce qu'il y a une justice et qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. On doit toujours rendre des comptes à la justice. Ils ont perdu leur maison, ils ne peuvent plus y revenir. Ils ont perdu leur patrie, ils ne peuvent plus y revenir. Ou alors, confrontés à l'autorité et à la justice, ils devront rendre des comptes. Et ça va se traduire en années et en années et en années de prison. À moins qu'un autre aille dire « mais en fait, je vais aller en prison à leur place. Je vais payer leurs dettes. » Vous connaissez l'histoire. Eh bien, cette expérience d'avoir voulu plus, d'avoir voulu le luxe, d'être un peu augmenté, d'avoir plus que ce que Dieu nous a donné et d'outrepasser le cadre, eh bien, c'est l'expérience désastreuse qu'ont fait nos premiers parents, Adam et Ève. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi elle est sur le thème de la bonté de Dieu et qu'elle va nous parler de Genèse 3, de ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden avec le serpent et puis l'histoire du fruit et puis de Ève, la femme qui a été séduite, etc. Mais où est la bonté de Dieu là-dedans? Eh bien, allons voir. Vous vous souvenez qu'il y a quelques semaines, j'ai pris un peu de retard dans mon programme parce qu'il s'est passé un peu des choses, mais c'est pas grave. Il y a quelques semaines, on a parlé de Genèse 1, de la création, on a parlé de Genèse 2, on a parlé de ce jardin d'Éden où tous les arbres sont beaux à voir, beaux pour la vue, ils sont agréables à la vue, ils sont bons à manger. On a vu qu'il y a de l'or, des pierres précieuses, qu'il y a des résines aromatiques, il y a des parfums, des bonnes odeurs, il y a de l'eau en abondance, il y a de la luxuriance et Adam et Ève qui doivent garder ce jardin bénéficient de tout ça. Dieu leur a dit, vous pouvez manger de tous les arbres du jardin, sauf un, parce que ça vous ferait du mal. Dieu a déversé sa bonté au niveau de l'abondance et de la protection. Ça, c'est le contexte. Mais le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Comment les choses ont commencé? Elles ont commencé avec un dialogue. Les choses ont commencé avec des paroles. Ça fait combien de temps qu'on parle de cette importance de la parole? La parole, elle est créatrice, mais elle peut faire du bien ou du mal selon comment est-ce qu'elle est utilisée. Un dialogue. Le serpent qui va parler à la femme. Et qu'est-ce qu'il fait? Comment est-ce qu'il s'y prend? Ce texte est tellement riche que je ne vais pas vous ressortir tout ce qu'il dit. Mais je vous propose d'aller relire Genèse 2 à partir du verset 8 en particulier et aller lire Genèse 3, puis essayer de comparer, essayer de comprendre les subtilités. Le serpent, il commence par une phrase. Dieu a-t-il réellement dit? Ça, c'est ce qu'on a le plus souvent dans nos traductions. Mais il y a des traductions en français qui sont beaucoup plus justes, comme dans la Darby ou dans Summer, qui disent « Quoi ?» ou « Vraiment ?» Dieu a dit ça. Vraiment ? Autrement dit, la première chose du serpent, c'est pas tout de suite induire le doute. La première chose, c'est la disposition de son cœur. Il est dans le sarcasme. Il est en train, non pas de s'attaquer à la femme, mais de s'attaquer à Dieu. Vraiment, Dieu a dit ça. Vraiment, Dieu a dit « Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. » Mais Dieu a dit « Vous pourrez manger de tous les arbres. » Dieu a parlé positif. Vous pouvez avoir tout ça. Et le serpent dit, Ah ouais, Dieu il est comme ça, vous pouvez avoir rien du tout. Autrement dit, il est en train de dire, mais Dieu est mauvais, mais Dieu il est avare, mais Dieu il est cupide, mais Dieu il est pas bon, mais Dieu n'est surtout pas généreux, mais Dieu veut surtout pas vous faire du bien, il n'a aucune bonté. Voilà ce qu'il est en train de dire. C'est à Dieu que le serpent s'attaque. Mais il ne veut pas que Dieu reçoive la louange et la gloire de la part de ses créatures. Alors il passe par l'une de ses créatures pour qu'elle se sépare de Dieu, qu'elle se sépare de son créateur et qu'elle ne remplisse pas son mandat d'image de Dieu, de refléter Dieu et de lui rendre gloire. Et bien sûr que le doute entre dans la femme. Ah ouais, peut-être bien que Dieu n'est pas si bon puisqu'il ne m'a pas donné de tout. Et ça commence à la déstabiliser. Donc il y a le sarcasme, il y a la déformation de la parole de Dieu, il y a de la séduction, il y a du doute. Ce serpent est le plus rusé de tous les animaux. Mais la femme, comment est-ce qu'elle fait? Comment est-ce qu'elle répond? Alors c'est vrai, elle n'avait encore pas l'exemple de Jésus. Souvenez-vous, Jésus, quand il était dans le désert et que le tentateur est venu le tenter, Jésus a proclamé la parole de Dieu. Deux fois, le tentateur lui propose de faire des choses, il essaye de le séduire, mais Jésus, il ne se justifie pas, il proclame la parole de Dieu. Et le tentateur n'arrive pas à obtenir gain de cause. Et quand le tentateur essaye d'utiliser la parole de Dieu, Jésus, qui la connaît beaucoup mieux, il en prend une autre qui a un poids beaucoup plus fort au niveau légal, au niveau juridique. Le tentateur, il utilise un psaume, Jésus utilise le Deutéronome, un texte de loi, et ça cloue le bec du tentateur. Eh bien, la femme, comment est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle connaît la parole de Dieu pour la proclamer? Simplement se mettre sous le couvert de la parole de Dieu pour rester protégée, pour ne pas se laisser ébranler? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle se justifie. Elle se justifie, elle justifie aussi Adam, puisqu'elle dit nous. Est-ce qu'elle justifie Dieu? Pardon, on ne sait pas vraiment. La femme répondit au serpent, nous mangeons des fruits des arbres du jardin. Autrement dit, non, mais on peut en manger. Elle est déjà en train de se protéger. Et elle en rajoute, quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, c'est pas celui qui est au milieu du jardin. Celui qui est au milieu du jardin, c'est l'arbre de vie. Alors il est sûrement pas loin, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais déjà là, elle sait plus très bien. Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point. Mais Dieu n'a jamais dit, vous n'y toucherez point. Et encore, elle rajoute, de peur que vous ne mouriez. Mais Dieu n'a jamais dit, de peur que vous ne mouriez. Dieu a dit, vous ne mangerez pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Mourir, tu mourras. Si tu en manges, tu meurs. C'est certain. C'est pas une supposition. C'est pas peut-être ça va arriver. Mais si tu fais ça, tu meurs. Donc, n'en mange pas. Si tu marches trop près du précipice, tu tombes. Donc, ne marche pas tout près du précipice. C'est ça que Dieu a dit. Mais la femme, elle sait plus. Et là, le serpent, il peut entrer complètement. Il dit, mais non, mourir, tu ne mourras pas. Mais non, c'est pas une mort certaine. Ce serait une espèce de transformation. En fait, tu vas un petit peu mourir à qui tu es maintenant. T'as une finitude. Il te manque quelque chose. T'as pas cette intelligence de comprendre le bien et le mal, mais du coup c'est un peu ça qui va mourir. Mais par contre, si tu manges de ce fruit, il y aura une transformation qui va ouvrir ton intelligence et tu vas devenir comme Dieu. Et la femme n'est tellement pas affermie dans la parole de Dieu, dans sa confiance en la bonté de Dieu. Elle pense que la bonté de Dieu n'est pas suffisante, puisqu'elle a envie d'être augmentée, puisqu'elle a envie d'être comme Dieu, puisqu'elle a envie de répondre à ses besoins, puisqu'elle ne se satisfait pas de tout ce que Dieu lui a donné. Elle se dit, ben non, Dieu il n'est pas assez bon pour moi. Il m'a créé d'une manière restreinte. Alors elle craque. Alors elle prend de ce fruit et elle en donne à son mari qui était auprès d'elle. Pas un pour rattraper l'autre. Ce mari, il a reçu cette parole. Ce mari, il aurait dû la protéger. Ce mari, il aurait dû prendre la parole. Pas un pour rattraper l'autre. Alors que se passe-t-il? Est-ce que cette transformation a lieu? Tout à coup, les yeux s'ouvrent, l'intelligence est là, ils sont comme Dieu et ils connaissent le bien et le mal. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Instantanément, qu'est-ce qui se passe? Leurs yeux s'ouvrent, mais pas sur une immense intelligence. Leurs yeux s'ouvrent sur leur nudité, sur leur honte. Dès qu'ils transgressent le cadre, ils perdent leur relation avec Dieu. Ils perdent leur légitimité de vivre en présence constante avec Dieu. Ils perdent leur statut d'image de Dieu. Mais qu'est-ce qui leur frappe les yeux? C'est la honte. Ils ont perdu leur revêtement de Dieu. Et qu'est-ce qu'ils font? Premier réflexe, plutôt que d'appeler Dieu en disant « J'ai péché, viens à mon aide !» Non, ils se tricotent des ceintures en feuilles de figuier. Voilà la solution humaine. La réponse humaine au problème, futile et dérisoire. Imaginez, c'est vrai, il y a du soleil. Mais ce matin, la température, elle était un peu en dessous de zéro. Imaginez que vous veniez au culte avec des feuilles de figuier comme habit. Les solutions humaines sont dérisoires et futiles. Ça ne suffit pas. Ils ont tricoté ça pour cacher leur honte. Mais ça suffit pas. Parce que quand ils entendent la voix de Dieu qui parcourt le jardin vers le soir, qu'est-ce qu'ils font? Ils se planquent. Ils vont se cacher derrière un arbre. Mais c'est Dieu qui a créé les arbres. Mais c'est Dieu qui a créé toutes choses. Et rien ne se dérobe à son regard. Dieu, il voit ce qui est sur la terre, ce qui est dans le cœur de l'homme. Il voit tout. Comment se cacher? Comment se cacher? Futile et dérisoire. L'homme et la femme sont complètement séparés de Dieu. Et la solution à leur problème, ils ne peuvent pas la trouver eux-mêmes. Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé pour ce couple qui a outrepassé le cadre. Ils ont voulu plus que nécessaire. Avoir une voiture lambda comme celle de tout le monde, ça va pas. Il fallait des voitures de luxe. Mais il fallait aussi une garde-robe qui n'en finit plus. Il fallait des stylos en or, parce qu'un simple stylo Caran d'Ache, même que Caran d'Ache, c'est peut-être déjà une trop grande marque, ça marche pas, ça écrit pas bien. Comprenez? Il faut que ce soit en or. Mais pour ça, pour avoir tout ça, avec un salaire qui demande un peu de travail, ben ça va pas. Alors c'est mieux de trafiquer, c'est mieux d'outrepasser le cadre, comme ça on peut tout avoir. Mais à un moment donné, il y a quand même la justice qui intervient. Et quand la justice intervient, ben tout à coup on se retrouve tout nu. Ils ont dû tout quitter, ils ont rien pu prendre avec. Honte, peur, dissimulation. Et c'est souvent ce qui nous affecte aussi. Chaque fois qu'on se sépare du cadre que Dieu a mis, on se retrouve soit dans la honte, puis on essaye de se justifier. C'est pas moi, c'est pas de ma faute. Ou c'est parce qu'il m'est arrivé ça que je suis comme ça. On a plein de schémas. La peur, peur d'être découvert, peur de n'être pas assez bien, peur de ne pas être à la hauteur, peur qu'il nous arrive si, peur de manquer, peur de ne pas être guéri, peur de se retrouver tout seul. Et la dissimulation, se cacher. Mais Dieu dans tout ça, est-ce qu'il est bon? Est-ce que Dieu est arrivé fâché, en colère, pour gronder? Je ne vais pas utiliser un autre terme, Adam et Ève. Comment est-ce que Dieu fait? Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu ce matin? » Est-ce que tu es dans le camp de Dieu en ayant confiance en sa bonté, en prenant sa bonté pour votre vie, en discernant tout ce que Dieu fait pour vous? Est-ce que ça vous rend proche de Dieu de comprendre comment est-ce qu'il agit dans vos propres situations? Ou est-ce que vous êtes dans le camp du diable, où vous êtes en train d'écouter des mensonges, vous êtes dans la peur, dans la crainte, vous essayez d'outrepasser un cadre? Où êtes-vous? Où es-tu? Où es-tu de ta relation avec Dieu? Où es-tu de ta confiance dans sa bonté, dans tes propres difficultés? Est-ce que tu le vois? Est-ce que tu vois de quelle manière il agit? Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu? » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? » L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela? » Toujours de la bonté, il n'y a pas de proche dans le cœur de Dieu. Pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. C'est pas moi, c'est l'autre. Alors puisqu'il y a une justice, il y a une sentence. Il ne peut pas y avoir de justice sans sentence quand on dépasse le cadre. Il ne peut pas y avoir un mélange d'impureté dans la pureté. Ça ne peut pas. Donc il y a une sentence. Et je ne vais pas vous lire tout le texte, mais à partir du verset 14, Dieu dit au serpent ce qui va lui arriver. « Puisque tu as fait cela, tu vas ramper sur ton ventre, etc. » Et à l'homme, il lui dit « Puisque tu as fait cela, eh bien tu devras travailler à la sueur de ton front. Il y aura de la pénibilité qui va venir se rajouter à ta vie. Et à la femme, tu vas enfanter dans la douleur. » Il y a des sanctions. On en reparlera certainement une autre fois pour voir ce que ça signifie. Mais il y a une sanction qui est vraiment pire. Et c'est ce qui s'est passé pour ce couple du Val-de-Rue qui a dû être exilé ailleurs, qui a dû être chassé, qui ne peuvent plus revenir chez eux. Verset 22. L'Éternel Dieu dit, « Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal, empêchant-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger, et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam, et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de la vie. » L'Éternel dit, « Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. » Il n'est pas en train de dire, « L'être humain est devenu Dieu. L'Éternel est devenu l'égal de Dieu. » Mais non, Dieu est toujours le créateur, l'homme est toujours une créature. Ça n'a pas changé. Il n'y aura jamais de rivalité. Même si l'homme essaye toujours de se mettre à la hauteur de Dieu, cette rivalité, Dieu, il n'en a que faire. Mais l'homme est devenu comme Dieu dans le sens où il est devenu un faux Dieu, un prétendu Dieu. Il se croit Dieu, il se fait Dieu. Il veut tout contrôler, il veut tout gérer, il veut s'augmenter. Regardez ce qui se passe avec notre technologie. Regardez ce qui se passe. Il n'y a pas besoin d'aller loin. Ce texte est très actuel. L'homme veut être Dieu. L'homme est un faux Dieu prétentieux. Et tu ne peux pas mélanger un faux Dieu prétentieux avec le vrai Dieu. L'impureté ne peut pas se mélanger à la pureté. Alors, l'homme ne peut plus rester dans ce jardin d'Éden. L'homme ne peut plus rester dans ce jardin d'Éden parce que qu'est-ce qu'il y a dans ce jardin d'Éden? Il y a l'arbre de la vie. Et l'homme ne peut pas continuer à goûter à cet arbre de la vie, à recevoir la vie de Dieu et de mélanger son impureté avec la pureté de Dieu. C'est pas possible. L'homme ne peut pas vivre éternellement dans sa souillure en communion avec Dieu. C'est pas possible. Alors l'homme est chassé de ce jardin. Il est sur la terre, il doit continuer à cultiver la terre, mais il est chassé de ce jardin. Et ce jardin, il est protégé par des épées flamboyantes. Le feu du jugement, le feu de la justice. Si tu veux revenir vers l'arbre de la vie, si tu veux être avec Dieu, en communion avec Dieu, il y a un jugement, il y a une justice. Tu ne peux pas la contourner. C'est pas possible. La semaine prochaine, on va fêter Pâques. On va fêter Dieu, Jésus, notre justice. Alors nous savons aujourd'hui, nous, qu'on va le retrouver, ce jardin d'Éden. On est dans le déjà et le pas encore. Déjà, nous avons été justifiés. Déjà, nous avons cette espérance. Déjà, nous avons retrouvé notre communion avec Dieu. Mais un jour, il en est question dans le livre de l'Apocalypse, un jour, nous le retrouverons, cet arbre de la vie. Un jour, nous serons en pleine communion avec Dieu. Un jour, nous allons de nouveau le voir face à face. Alors, est-ce que Dieu est bon? Est-ce que Dieu est bon avec tout ça? D'avoir dit au serpent, tu vas ramper sur ton ventre. À l'homme, c'est à la sueur de ton front que tu vas travailler. À la femme, tu vas enfanter dans la douleur. Et tout ce qu'on sait, et le fait d'avoir expulsé de ce jardin qui a engendré le processus de vieillissement, qui a engendré la maladie, qui a engendré la malédiction, la pauvreté, vous connaissez tout ça. Est-ce que Dieu est bon? Verset 21. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Imaginez, quand la sentence tombe, Adam et Ève, ils sont toujours planqués derrière leurs feuilles de figuier, hein. Ils doivent aller cultiver la terre. Eh bien, bon courage! Surtout en hiver. Dieu sait que Adam et Ève ne pourront pas survivre dans leurs conditions déchues s'ils n'ont pas un revêtement, et pas n'importe lequel. Dieu qui a créé toutes choses, qui aime ses créatures, il effectue le premier sacrifice. Il sacrifie ses créatures qu'il a créées bonnes, qu'il aime. Il a tué des animaux pour faire couler le sang, pour revêtir Adam et Ève, qu'ils soient revêtus, qu'ils aient le revêtement nécessaire pour pouvoir survivre, vivre dans un environnement qui leur est devenu hostile et qui le devient de plus en plus. Et ce revêtement, ça fait penser à Galates 3, 27, si je ne me trompe pas, deux versets. Galates 3, 27, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Ce sacrifice, il est précurseur. Il annonce le sacrifice de Jésus. En étant revêtu de Christ, nous pouvons vivre dans cet environnement hostile. Il y a des guerres, il y a des maladies, il y a des problèmes, mais lorsque je suis revêtu de Christ, je suis en relation avec lui. Et je suis de nouveau, j'ai de nouveau cet accès au sanctuaire, j'ai accès à Dieu, j'ai accès à la communion, à la relation, au dialogue avec Dieu. Et je peux voir que dans mon quotidien, au travers de l'adversité, Dieu est bon. Dans les détails, et moi c'est ce qui m'émerveille, dans les détails de nos vies, quand vous êtes dans les difficultés, ayez le réflexe de vous dire, mais Dieu, où est ta bonté? Comment est-ce que je peux voir ta bonté? Dans quoi est-ce que ta bonté se manifeste? Apprends-moi à voir, à sortir mes antennes spirituelles, que je le comprenne. Parce que Dieu nous parle à chacun de manière différente. Il y a des gens, ils entendent presque audiblement la voix de Dieu, ou des pensées qui viennent et qui les convainquent. Il y en a certains qui sentent la présence de Dieu presque physiquement. Et il y en a qui sont capables de voir les circonstances qui s'alignent en leur faveur et qui se disent, mais attends, mais ça c'est Dieu, mais ça c'est Dieu. Durant ces dernières semaines d'hospitalisation et de plein de choses qui me sont arrivées, je sentais pas vraiment la présence de Dieu au niveau physique ou quoi que ce soit. Mais il y a eu tellement de détails, mais il y a eu tellement de choses. Et au travers de l'adversité, Dieu m'a restauré dans des domaines qui avaient rien à voir avec ma santé, mais rien à voir. Il a restauré des choses, en fait, qui avaient besoin d'être restaurées, mais c'est au travers de cette épreuve que ça a pu se faire. Mais moi, j'ai vu comme il a tout planifié. Et tout à coup, quand j'ai commencé à discerner ce qu'il faisait, ben, j'avais le choix de me dire, oh, Seigneur, mais il faut que ça arrive, mais il faut que ça arrive. Parce que je voyais qu'un rendez-vous important était en train de se mettre en place. Et en fait, ça tenait à rien du tout, si ce n'est à Dieu. Au niveau humain, il n'y avait aucun contrôle. J'aurais pu dire, mais Seigneur, fais que ça tombe pas à l'eau, mais fais qu'elle oublie pas, mais fais qu'elle vienne, mais fais qu'elle ait pas un autre rendez-vous, mais fais que... J'aurais pu être dans la peur. Le réflexe, c'était de dire, waouh, Seigneur, t'es en train de planifier tout ça. T'es en train de tout mettre en place pour que ce rendez-vous ait lieu. Alors moi, je te demande, qu'est-ce que je devrais dire pendant mon rendez-vous? Je me prépare pour entrer dans ce que Dieu prépare. Et ce rendez-vous a eu lieu, et c'était divin, et c'était magnifique. Et pour chacun, c'est différent. Aujourd'hui, on a plusieurs personnes qui sont malades dans l'Église. Il y en a qui traversent de l'adversité dans d'autres domaines, mais c'est vrai que ces dernières semaines, on n'a pas arrêté de rajouter des gens sur la liste. Mais aujourd'hui, si j'ai fait aussi en même temps un peu de présidence, c'est parce que Denis et Monique sont un petit peu en auto-isolement. Et ben voilà, ça fait encore deux personnes de plus sur la liste. Mais il y a des personnes qui sont atteintes vraiment gravement dans leur santé. Il y a Josué qui est avec nous. Il y a Dominique qui est certainement sur Zoom. Et puis on a aussi Fabienne qui est parmi nous. Et il y a plusieurs personnes aussi. Mais si vous regardez ces personnes, moi je me souviens d'un ou deux téléphones que j'ai eu avec Josué, qui traverse un vrai combat, pour de vrai. Mais il y a eu des moments où il me disait, en fait, je sentais tellement de joie. Et il y a quelque chose de restauration que Dieu a commencé en lui et quelque part qui n'a rien à voir avec sa santé. Tout à coup, il y a quelque chose qui se passe. Quand j'entends Dominique au téléphone, et ça vous le savez aussi avec tout ce qu'elle a déjà témoigné aux uns ou aux autres, elle a une relation qui s'est tellement fortifiée avec le Seigneur. Et il y a deux jours ou hier ou avant-hier, il y a Fabienne qui m'appelle, mais moi, on était juste au téléphone, mais je voyais la lumière dans son appartement. Moi, je voyais le printemps, je voyais les oiseaux chanter, mais elle explosait de joie. Je ne sais pas si elle sautait sur ses pieds, j'ai l'impression qu'elle était comme ça. Fabienne, elle a appris qu'elle a un cancer, elle a dû se faire enlever une tumeur, mais elle a reçu des résultats encourageants. Pourtant, elle va quand même avoir 4 à 6 semaines de radiothérapie, c'est pas rien. Mais avec tout ce qu'elle a vécu ces dernières semaines, les démarches qu'elle a faites avec le Seigneur, elle est en train de voir la bonté de Dieu. Et plutôt que de paniquer sur ce qui lui arrive physiquement, elle est en train de dire tout ce que Dieu fait. Elle est en train de discerner la bonté de Dieu. Et ce qu'elle me disait au téléphone, tu sais, avec le Seigneur, mais c'est comme s'il était assis sur le canapé avec moi, puis on discute. Une proximité avec Dieu, quelque chose que j'avais jamais entendu de sa bouche. Mais c'est ça la bonté de Dieu. À cause de ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, c'est entre guillemets normal qu'on ait de l'adversité. On n'est pas un mauvais chrétien qui manque de foi quand on est malade. Dieu parfois il guérit par un miracle. Prier, imposer les mains aux malades, ils seront guéris. C'est des choses que nous devons faire. Et on voit Dieu qui agit. Moi, je crois au Dieu des miracles. Je crois aux miracles. Mais c'est pas toujours comme ça. Et Dieu utilise aussi les uns et les autres pour guérir. Pas seulement le miracle qui tombe du ciel, mais il nous utilise. Et parfois, une restauration de cœur est plus importante qu'une restauration de corps. Et parfois, il faut la restauration de cœur pour qu'il puisse y avoir la restauration de corps. Chaque situation est différente. Mais plutôt que de se flageller parce qu'une guérison ne vient pas, essayons de nous dire, Seigneur, montre-moi ta bonté au travers de ma souffrance, de ma difficulté, de mon défi. Montre-moi, permets-moi de voir comment tu agis. Et plus vous ferez ça, plus vous serez proche de Dieu. Plus vous serez proche de Dieu, plus vous serez gonflé à bloc. Plus vous serez gonflé à bloc, plus vous saurez comment utiliser cette parole. Plus vous utiliserez cette parole, plus vous serez efficace. Vous avez des défis, vous devez entrer dans le combat. Vous prenez le psaume 18, vous allez dans les psaumes 140. Vous avez besoin de courage, prenez le psaume 23. Vous avez besoin de sentir comment vous êtes une créature merveilleuse, vous prenez le psaume 139. Vous avez besoin de restauration envers des personnes qui vous ont fait du mal, vous allez lire le sermon sur la montagne. Matthieu 5 à 7. Vous avez besoin de miséricorde, vous allez dans ce sermon sur la montagne et vous verrez que vous devez faire miséricorde. Et quand vous aurez réussi à faire miséricorde, vous serez libéré. C'est ça mon rendez-vous, c'est ça ce que j'ai vécu. Allez dans cette parole et appliquez-la. Et vous allez voir. Et ben vous voyez ce matin, mon mari m'a pris mon tabouret parce que j'avais peur de ne pas tenir sur mes jambes. Parce que j'ai perdu pas mal de muscles dans la bataille. Ben, je suis gonflée à bloc. Je sais que j'en ai pour des mois de tout récupérer avec ce qui m'est arrivé, mais je suis gonflée à bloc et je regrette rien parce que ça m'a tellement rapprochée du Seigneur. Et moi, c'est ce que je vous encourage, mais cherchez où est la bonté de Dieu, comment est-ce qu'elle se manifeste dans vos difficultés, parce que Dieu est bon, parce que Dieu est bon, infiniment bon. Je vais m'arrêter là, sinon je vais continuer encore longtemps. Renoncez aux mensonges et accordez-vous avec Dieu. Renoncez aux mensonges et accordez-vous aux promesses de Dieu, à la vérité de Dieu. Vivez dans la sainteté. Renoncez à ce qui n'est pas vérité. Renoncez à tout ce qui va contre sa parole. Entrez dans une vie juste, demeurez dans une vie juste et proclamez la vie. Proclamez les promesses de vie pour soi, pour autrui et regardez comment Dieu déverse sa bonté. Je vous propose pour les personnes qui ont besoin du petit coup de pouce du Seigneur pour réussir à discerner comment la bonté de Dieu se manifeste. Les personnes qui ont besoin d'entrer dans ce processus, de se séparer des mensonges ou des angoisses ou des solutions humaines et qui ont besoin de voir la bonté de Dieu, je vous invite à vous lever et on va prier. Seigneur mon Dieu, éternel Dieu, toi le Créateur, Dieu Tout-Puissant, Ô Père Saint, Père fidèle, Père de gloire, Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, qui était là dès la fondation du monde, même avant, toi qui as tout créé par ta parole, ô Saint-Esprit, toi qui te mouvais au-dessus des eaux, Dieu trois fois saint, qui existe de toute éternité, c'est à ton nom que nous faisons appel. C'est à toi que nous faisons appel, parce que tu es le Dieu bon, le Dieu juste, le Dieu saint. C'est toi qui nous as créés avec un amour débordant. C'est toi qui as créé toutes choses pour nous remplir de bonté, nous remplir de plénitude, de joie, de paix, pour nous rendre capables de vivre une communion avec toi, de goûter à la paix qui surpasse toute intelligence. Seigneur, je te remets toutes ces personnes qui sont debout. Je crois que quelque part, on peut tous être debout devant toi, parce qu'on a tous besoin d'une révélation plus grande de ton amour. On a tous besoin que tu nous fortifies dans notre être intérieur. Nous avons tous besoin que tu nous rendes capables de comprendre la largeur de ton amour, la hauteur de ton amour, la profondeur de ton amour, la longueur de ton amour. On a tous besoin d'avoir notre intelligence renouvelée par ton Saint-Esprit, d'être touchés dans notre âme. Père, je te remets chacun, tous ceux qui se sont levés et qui te demandent à être capables de voir ta bonté dans leur situation, dans leurs difficultés, dans leurs défis, dans leurs combats. Je te demande d'ouvrir leurs yeux spirituels. Fais tomber les écailles de leurs yeux. Je te demande de briser les forteresses, de briser les angoisses, de leur montrer, de leur donner un esprit de discernement qui leur montre chaque fois qu'ils sont en train de perdre des forces dans un faux combat qu'ils n'ont pas à mener, mais qu'ils sachent s'appuyer sur tes promesses, sur ta parole et sur ta bonté. Rends-les capables de voir comment ta bonté se manifeste. Lorsqu'il y a un frère ou une sœur que tu mets sur leur chemin, même un inconnu que tu mets sur leur chemin pour leur donner une direction, lorsqu'ils lisent quelque chose qui doit les interpeller, lorsqu'il y a un agenda qui se met en place et que tout à coup ils se rendent compte que c'est toi qui as voulu ça, je te demande d'ouvrir les yeux spirituels, Seigneur, un esprit de discernement pour que chacun puisse voir comment tu alignes les circonstances en leur faveur. Merci Seigneur, je te demande ta restauration dans les vies. Tu connais chaque situation et que chaque cœur puisse te louer et t'adorer parce que tu pourvois dans chaque situation. Nous avons tous péché devant toi, pas un pour rattraper l'autre. Mais même à celui qui a fait les plus gros péchés, tu pardonnes. Pour tous ceux qui s'approchent de toi, le pardon est là. Il n'y a pas de mérite, il y a seulement ta grâce, il y a seulement ta bonté, il y a seulement ton sacrifice, Jésus. Que ton sacrifice n'ait pas eu lieu pour rien, mais que nous soyons capables de le saisir. Gloire à ton nom, ô Dieu puissant. Merci pour ta faveur. Merci pour les écluses des cieux qui sont ouvertes et qui se déversent dans les cœurs maintenant. Merci pour ta paix qui est en train de remplir les cœurs qui en ont tellement besoin. Ces cœurs qui soupirent après toi. Il y a quelqu'un qui est comme le psalmiste au bord d'une source d'eau, qui a soif. Son âme soupire après les eaux, après le Dieu vivant. Il y a des gens qui sont comme dans une terre desséchée. Je te demande, Seigneur, que ces gens puissent puiser à la source que tu es. Remplis-les, Seigneur. Inonde, lave, guéris, purifie. Arrose leur terre et que du bon fruit puisse venir fructifier au sein de leurs difficultés. Que tu sois manifesté. Ô Seigneur, merci de les fortifier. Merci de fortifier chacun et de te glorifier dans chacune de nos situations. Gloire à ton nom. Amen.